Nous sommes deux lycéennes de Baudy-Mont-Saint-Charles à Arras et avons été dans le cadre d'un atelier avec la radio PFM interviewer à l'Office culturel d'Arras un artiste.
Martial Rossignol est membre et fondateur de l'association Incarna. Il nous résume l'histoire de son collectif et évoque son travail d'auteur et photographe. Bonjour Monsieur Rossignol, vous nous parlez de votre association.
Alors l'association c'est le collectif Incarna, c'est un collectif d'auteurs photographes. Les mots ont une importance, c'est pas un collectif de photographes mais bien d'auteurs photographes. Donc l'idée de ce collectif c'est effectivement de promouvoir la photographie d'auteur, c'est-à-dire pas... Bon, en général, tout le monde se dit photographe quand il a fait une bonne photo, et l'auteur photographe, c'est celui qui arriverait à en faire toute une série et assez régulièrement de produire des images originales par rapport à ça. Donc, nous, effectivement, on travaille plus sur la série et sur des quantités d'images un peu plus importantes. C'est une manière de travailler en fait, c'est-à-dire que dans les photoclubs en général on essaie de viser une bonne technique et d'arriver à une bonne image, et nous finalement la technique je pense que tous les auteurs l'ont bien intégrée et maintenant essayer de la dépasser, de la provoquer, d'aller explorer des pistes nouvelles, de tenter des aventures photographiques en fait et des expériences photographiques. C'est là où il y a une espèce de saut qualitatif entre un bon photographe et un auteur photographe. Alors mon rôle dans l'association, je suis secrétaire, Patrick Devresse en est le président, et on a fonctionné pendant plusieurs années en effectif assez réduit, puisque le but de l'association c'était à la fois de montrer notre travail, de faire la promotion de nos séries photographiques, mais aussi d'aider les jeunes auteurs photographes à monter leur première exposition. Donc on avait tout un travail de dépistage, d'accompagnement des jeunes auteurs vers la première exposition. On essayait de les aider à construire leur projet, à monter leur texte de présentation d'expo et de leur trouver un financement qui leur permette d'avoir, au bout de leur première exposition avec Incarna, une exposition qui fonctionne, qui soit prête à aller être exposée ailleurs et prête à être montrée un petit peu partout et assez facilement. Donc ça, c'est vraiment notre rôle, notre second axe sur lequel on continue. L'auteur, cette année, le jeune auteur qu'on a intégré dans nos rangs s'appelle Léo Bailleul. Il expose là, dans l'exposition collective à l'Office culturel. Et donc, il présente une série sur Séoul. Et puis, on va essayer effectivement de monter. Là, il présente quelques images. Il en a 5. On va essayer de l'aider à monter vraiment sa série complète et puis à pouvoir la montrer un peu partout. On existe depuis, quelques dizaines d'années, et on a déjà exposé une trentaine de photographes, toujours en partenariat avec l'Office culturel d'Arras. On a un petit peu le nez creux, c'est ça qui nous satisfait, en fait, c'est avec ça qu'on se paye, c'est la réussite des auteurs qu'on a promus. En fait, sur la trentaine d'auteurs qu'on a exposés, une quinzaine ont une carrière internationale, nationale ou internationale. On se dit qu'on est sur la bonne piste à chaque fois. Les autres, à mon avis, vont pas tarder à percer aussi. Et puis à chaque fois, on essaie de trouver effectivement un vrai talent, si possible régional ou dans l'euro-région. Au départ de notre association, en fait, on s'est regroupé parce qu'on a galéré en fait pour promouvoir nos expositions et puis savoir tous les aspects techniques, quel statut prendre, comment se déclarer, etc. Et en fait, on a vraiment créé notre association pour aider les jeunes auteurs à avoir toutes les informations assez rapidement et pas galérer 10 ans à mettre tout ça en place et puis pouvoir faire de la photographie au lieu de chercher comment s'y prendre, quoi. C'est vraiment une mission d'accompagnement des jeunes auteurs. Alors jeune, le mot il est un peu ambigu parce qu'on peut être jeune auteur à 50 ans. Donc l'idée c'est ça, c'est plutôt d'un photographe qui a une première exposition en cours de montage et puis qui a besoin d'un accompagnement d'un photographe un peu plus aguerri pour l'aider à passer des étapes, quoi.
En se focalisant un peu plus sur votre série de photographies ici présentes, pourquoi le choix déjà de la photographie? Pourquoi des photographies en noir et blanc, portraits?
Je vais revenir sur le mot auteur. C'est-à-dire qu'une série photographique, ça s'écrit comme on écrit un texte. Alors un texte, le mot texte, ce serait photographie ici, sauf que on peut écrire des romans, on peut écrire des polars, on peut écrire de la science-fiction, on peut écrire des poèmes, on peut écrire des nouvelles, on peut écrire avec un ordinateur, on peut écrire avec un stylo. Et quelque part, la photographie, ça s'écrit aussi de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque projet, on va choisir le type d'appareil qu'on va prendre, le type de lumière, le type de personnage, si on va travailler en noir et blanc ou en couleur, avec un appareil argentique ou numérique, récent, pas récent. Enfin, quelque part, on va choisir ces outils pour produire, produire effectivement une série qui soit cohérente et qui raconte quelque chose. Donc, sur cette série-là, elle existe en couleur et en noir et blanc. C'est une série où je travaille avec un écran de papier cristal entre l'appareil photo et le modèle, sur lequel je mets une matière gluante, du gel ou de la colle ou des choses comme ça, qui permet de retrouver un effet de brosse qu'on retrouve dans la peinture. L'idée, donc, ça, c'est le dispositif technique. Pourquoi j'ai mis ça en place ? L'idée, c'était de retrouver de la matière dans la photographie, la matière qu'on retrouve dans les portraits de peints. Les portraits peints ne sont pas du tout, cherchent pas du tout la ressemblance photographique, loin de là. Hein. On est plutôt dans dégager une émotion, donner une tonalité un peu différente. Et souvent, ce sont des touches très larges, très floues, très, très vagues. Et pourtant, on reconnaît les gens, on retrouve l'émotion, on comprend très bien ce que le peintre a voulu faire passer à travers ce portrait-là. Et on saisit en général une facette de la personnalité du modèle qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est vraiment le regard de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Donc je me suis amusé à réinterroger le portrait photographique et surtout le portrait d'identité qui est un petit peu très hyper réaliste, on va dire presque, et en me disant bon, cette manière de photographier les gens m'intéresse pas, comment est-ce que je peux réintroduire un petit peu ce flou de la peinture, cette émotion de la peinture, la matière de la peinture. Donc ça a été une recherche en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place au fur et à mesure. J'ai fait quelques 5-6 séances assez longues avec des modèles, et puis après j'ai découvert en fait ce que je cherchais vraiment, j'ai découvert cette matière-là et puis j'ai travaillé. Alors certaines photos, donc il y a deux séries, il y a une série couleur et une série noir et blanc qui ne racontent pas la même chose à mon avis. Et ces deux séries-là, je ne les mélange pas en fait. Je pense qu'elles racontent vraiment des choses différentes. Et elles ne donnent pas les mêmes effets. Là, on est vraiment dans une matière qui est la lumière en fait. La matière, c'est vraiment la lumière. C'est-à-dire que tout ce qui est rajouté entre le modèle et l'appareil photo va capter ou déformer ou attraper de la lumière. Donc c'est vraiment de la peinture avec de la lumière. La couleur, elle était un petit peu anecdotique sur ces images-là. Dans la série couleur, la matière est un peu moins présente et la couleur un peu plus présente. Donc on est un peu plus dans un effet peinture. Il y a moins de masquage, les visages sont un peu plus apparents. Mais il y a quand même beaucoup de brouillage avec des parasites de lumière et des parasites de couleur. Donc bon, c'est vraiment une expérimentation et c'est là où je pense que ce qui est intéressant, c'est d'oser, c'est d'aller un petit peu plus loin, de se poser des questions par rapport à des standards, à des choses. Il y a des choses très codifiées dans les arts, dans les beaux-arts. Et l'idée, c'est d'interroger justement ces codes-là et puis d'essayer de les dépasser. Alors je trouve que cette série, elle métamorphose vraiment les gens. C'est-à-dire qu'ils sont eux, mais finalement, on est une troisième personne ou une personne un peu différente qui apparaît. Et on pourrait mettre le modèle à côté de sa photo. La ressemblance n'y est pas forcément. Et pourtant, à un moment, on s'aperçoit que tout colle bien, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver un petit détail, un moment, une lumière qui fait qu'il y a quelque chose en plus ou quelque chose de différent qui va faire apparaître une autre facette de la personnalité du modèle. Là où je remercie mes modèles, c'est justement qu'on n'est pas dans une photo très glamour, très narcissique, très. Parfois, on pourrait imaginer, même en regardant l'image, qu'elle soit. De dire oh, c'est pas très beau, c'est pas beau, et puis pourtant en rentrant dans l'image, en essayant de la lire, on s'aperçoit que notre cerveau lui va faire tout le travail de reconstruction que moi je me suis acharné à déconstruire. J'ai déconstruit un visage et le cerveau lui va tout reconstruire, et finalement on va retrouver toute la beauté qui était cachée parce que notre cerveau lui il a une plasticité qui fait qu'il ne peut pas se contenter d'un truc, d'un puzzle où il manque des pièces. Il va reconstruire toutes les autres pièces. Et donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on ne peut pas passer devant mes images, en tout cas, je pense, rapidement, parce que sinon on ne les comprend pas. Il faut vraiment s'arrêter, puis laisser son œil divaguer un peu, reconstruire l'image, laisser son cerveau travailler. Et là, on y prend du plaisir, je pense. Et il y a vraiment un travail, là, du coup, du spectateur aussi. J'aime bien, moi, que le spectateur, il ait un vrai travail, qu'il soit pas, qu'il passe juste... Bah, combien de fois j'ai vu ça, même dans les musées, hein, les gens qui sont quasiment au pas de charge, à travers les galeries, à regarder... un Rembrandt, un Picasso, et puis finalement ils ont passé une heure dans le musée, ils ont vu 300 œuvres et ils n'ont rien capté. Quoi. Maintenant le piège c'est que maintenant les gens font la même chose au pas de course et ils photographient, c'est-à-dire qu'ils regardent même plus, ils cadrent, point, ils s'en vont, ils passent, ils regardent, et ils regardent peut-être même jamais puisqu'ils ont tellement d'images que ça reste dans les ordinateurs, ils ont juste une trace de leur passage dans un endroit et l'œuvre en elle-même finalement elle n'a plus beaucoup d'importance, c'est juste une espèce de marqueur temps pour leur vie à eux et voilà. Moi j'ai envie que le spectateur il s'arrête, il regarde, il passe de l'autre côté du miroir. Les photographies pour moi c'est vraiment des miroirs, c'est la photographie elle est réussie quand les gens passent à travers l'image et nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Et par exemple, dans les photos de Léo, beaucoup de gens, de Léo Bailleul, qui sont des images de villes nocturnes très, très sombres et en même temps très lumineuses, il y a beaucoup de lumière, il y a une atmosphère qui est vraiment présente. Et les gens, beaucoup de gens ont cité des images de Blade Runner, par exemple. Pour eux, ça a évoqué ce film-là et ces ambiances-là et cet univers-là. C'est-à-dire que finalement, ils sont rentrés dans l'image, se sont racontés une histoire, l'ont raccroché à quelque chose qu'ils ont vécu ou à un moment de cinéma qu'ils ont vécu. Et je trouve ça assez intéressant. Et à chaque fois, c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de présenter énormément d'images. Quelques images suffisent si les gens font leur travail de regardeur ou de visiteur. C'est ça qui est pas mal. Et il y a des expériences amusantes. Hein. Une année, j'ai fait une série d'images sur des faux paysages, en fait. Et donc, j'avais, en prenant comme principe de base, qu'un paysage, c'était une ligne d'horizon avec un ciel au-dessus et une terre en dessous, ou une mer, bon. Et juste, surtout la ligne d'horizon. Donc en fait, j'ai construit des paysages bidons, avec des bâches plastiques, avec tout et n'importe quoi, en mettant parfois dans le ciel des images de sol ou inversement. Et un des visiteurs de l'exposition s'est arrêté devant une image en me disant « Mais c'est extraordinaire, on était au même endroit, au même moment, vous deviez être là, à cet endroit-là pour prendre la photo, et moi j'étais là-bas. » Et donc il m'a raconté en fait une journée de sa vie. Et en fait, c'était deux morceaux de bâche plastique assemblés avec une règle. Et c'était hallucinant. Donc, je ne l'ai même pas détrompé parce que j'avais fait mon travail en lui proposant une clé pour passer de l'autre côté du miroir. Et lui, il y était passé sans problème. Et donc, on a vécu un moment partagé alors qu'on ne l'a jamais partagé. J'ai trouvé ça assez amusant, en fait. Donc, voilà. Tout ce que je peux vous raconter sur nos images. L'idée aussi, c'est qu'on soit les médiateurs des autres photographes. Il y a des images, par exemple celles de Ghislain Deck, elles sont intéressantes. Quand on sait comment elles sont fabriquées, on est dans l'obscurité totale, par exemple. Alors, on se dit, mais comment arrive-t-il à faire de la lumière comme ça? Et il a juste une lampe de poche et un petit bouquet de fibres optiques avec lequel il va finalement venir dessiner la lumière et la poser sur les modèles. Donc là, les modèles sont... C'est une photo qui dure 3, 4, 5 minutes de temps de pose. Donc les modèles là sont posés, ferment les yeux. Et on est vraiment dans du light painting, c'est-à-dire qu'il va peindre avec la lumière, il va éclairer les corps et leur donner, leur donner une expression. Donc au départ, je pense qu'il a appelé ça les endormis et moi j'aimerais bien appeler ça les rêveurs ou les rêveuses parce qu'effectivement, je trouve ça très poétique. On a l'impression que les rêves s'échappent des cervelles et des corps, que toutes les émotions sortent par petits filaments. Et je trouve ça vraiment très, 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 très joli et très évocateur. Quoi. Je pense que ça pourrait inspirer plus d'un poète ou écrivain pour réécrire des textes justement autour de ça.
Alors, vous êtes auteur aussi, en plus de photographe. Pourquoi avoir fait ce choix en parallèle de la photographie? Et quelles sont vos sources d'inspiration, le genre de vos livres?
Alors, je ne suis pas écrivain, hein. Je suis auteur photographe. J'écris des livres de photographie. En fait, je pense qu'une fois qu'on a exploré l'exposition sous toutes ses formes, la manière d'exposer au CIMEZ, il y a d'autres manières de présenter sa photographie et le livre en est une. Il y en a d'autres après, il y a l'affiche, ça peut être aussi des affiches collées en ville, des choses comme ça. Mais le livre est une autre manière de présenter son image et une autre manière d'écrire une série photographique. Puisque là, on est vraiment sur des pages qui se répondent l'une à l'autre, parfois avec du texte, parfois sans texte. Et à chaque fois, il faut bien, quand on fait la préparation de l'édition de son livre, on fait vraiment en regardant les pages deux par deux. Et puis, c'est vraiment un dialogue après entre deux images. Autant sur une série, on peut avoir des images faibles et des images plus fortes, créer une espèce de montée en puissance et puis de redescente, une espèce de virgule dans une exposition, une respiration pour redémarrer sur des choses un peu plus fortes. De la même manière, un bouquin, on va l'écrire plutôt de la même façon, mais en utilisant les images deux par deux. Et là encore, il y a plein de manières d'écrire un livre, c'est-à-dire il va falloir choisir le format, le papier, le nombre de pages, et puis la manière après dont on va les organiser. Donc c'est vraiment une autre manière d'organiser son travail et de le réfléchir à nouveau, quoi. Donc c'est à chaque fois, alors, comme je vous disais, les expositions, on peut utiliser ou écrire de manière très différente. Vous voyez que là, on a des formats qui sont à peu près semblables, parfois en noir et blanc, parfois en couleur, parfois dans des formats improbables. Et puis à chaque fois, quand je parlais de sujet, vous voyez bien que ce que vous voyez au CIMEZ, par exemple, et ce que vous voyez là, c'est vraiment des histoires différentes, quoi. Pourtant, c'est le même photographe qui a fait ce travail-là. Donc, là par exemple, sur les décousus, c'est une série que j'ai travaillée pour autour des cicatrices, du monde de l'enfance et des cicatrices, en fait. L'idée, c'était de faire parler des jeunes enfants hospitalisés autour de leur hospitalisation, sans aborder les choses de manière très frontale, brutale. Et donc, en utilisant des peluches retournées, pour montrer effectivement les coutures, les fils, enfin toutes les choses qui pourraient suggérer effectivement une opération ou un travail sur le corps, il y avait moyen de délier la parole et d'engager. Et l'idée, c'était effectivement d'avoir un livre qui se présente à poser comme ça et d'avoir une mini-exposition sur laquelle les enfants puissent travailler dans leur lit, etc. Donc à chaque fois, effectivement, les choses se réfléchissent en amont. Il n'y a pas que la photographie, il y a aussi après la manière dont on va présenter ce travail-là. Donc, bon, ça c'était un boulot qui était assez intéressant et je le présente parfois en école maternelle ou en école primaire. La dernière fois j'étais dans un internat où c'était drôle puisque tous les gamins avaient amené leurs doudous. Moi j'avais amené les miens, hein, mais finalement on a plus parlé des leurs. Et puis ils nous ont raconté plein d'histoires et c'est ça qui était, en fait, c'était vraiment un déclencheur de parole et c'est ça qui était intéressant. Tout à l'heure, je vous disais que l'intérêt d'une photo, c'était d'aider les gens à passer à travers le miroir, mais on sait qu'ils sont passés à travers le miroir à partir du moment où ils déclenchent la parole. Alors ça peut être « Ah, c'est horrible !» ou alors « Oh, ça me prend aux tripes !» ou « Ça me plaît pas du tout !» Et après, les choses se mettent en place, ils expliquent pourquoi. Moi, j'ai beaucoup d'images entre guillemets provocatrices, c'est-à-dire où les gens ne restent pas d'emblée indifférents. Et à partir de ces images-là, souvent, ben, effectivement, la langue se délie. Un autre travail que j'ai fait, par exemple, qui a démarré plus sous une forme de blague, c'était effectivement de mettre des... J'aime bien les cabinets de curiosité, je suis assez fan de ça. Donc je me suis amusé à mettre des poupées dans des bocaux, comme ça, et en faire une espèce de faux cabinet de curiosité que j'ai photographié. Et à partir de ça... J'ai écrit un petit manuel avec quelques phrases un petit peu débiles et grand guignolesques sur l'élevage des enfants en bocaux. Et en fait, on s'aperçoit que les enfants aujourd'hui vivent assez en vase clos, quoi. Le bocal, c'est la télévision ou la console. Donc ça prend une résonance un peu rigolote. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que le livre s'appelle « In vitro ». Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est que le grand spécialiste de la fécondation in vitro en France s'appelle Martial Rossignol. C'est le professeur Martial Rossignol. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle In Vitro. Alors quand j'ai sorti mon livre dans une petite maison d'édition régionale, j'étais content parce que je voyais que mes ventes s'envolaient. Et en fait, non, c'était pas mon livre, c'était celui du professeur. Donc le mien s'est beaucoup moins vendu. Mais c'était assez rigolo. Et ces images-là, ce qui est amusant, c'est aussi comment les gens passent à travers. C'est-à-dire que souvent, on me parle d'enfants dans des bocaux. Et les gens qui ont vu l'expo il y a quelques années me disent « Oui, mais avec tes enfants dans les bocaux... Et en fait, je dis non, c'est pas des enfants, rappelez-vous, c'est bien des poupées, quoi. Mais ils sont passés à travers l'image, et eux, ce qu'il leur reste, c'est toutes ces histoires d'enfance, ou même tous les procès qu'ils ont eu avec les enfants dans les congélateurs et tout ça. Et en fait, ils sont vraiment passés dans un autre univers, où moi, je les ai un petit peu guidés, je les ai un petit peu poussés, mais ils ont découvert un petit peu... Et ce qui est incroyable, c'est... Je fais beaucoup de photos aussi sur des poupées emballées dans du plastique, Et c'était juste des photos que je prenais sur les puces, en fait. Comme il pleut beaucoup chez nous, les puciers, en général, emballent les choses sur les étals. Et moi, j'aimais bien ce piège à lumière du plastique autour des poupées. Et je prenais des photos in situ, je touchais rien, je prenais juste les choses. Et une des premières expositions que j'ai faites aussi, les gens ont vu ces images-là en me disant « Mais c'est quoi ces enfants maltraités ?» Et aussitôt, on voit que la bascule symbolique, ils sont passés vraiment de l'autre côté. Et du coup, j'ai eu plein d'histoires sur des maltraitances d'enfants, sur des choses comme ça, parce que les gens avaient envie de parler de ça, parce que ça les touchait de très près, où ils avaient vécu, où ils avaient eu un enfant décédé en bas âge, etc. Et donc à chaque fois, ça remuait vraiment des choses dans leur histoire personnelle. Et donc là, pour moi, quand j'arrive à déclencher ça, je me dis j'ai gagné, c'est quelque chose qui a fonctionné. J'ai pu délier la parole. Alors quand je dis que je faisais pas de la photo thérapeutique, c'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est vrai parce que je suis pas thérapeute, donc je veux absolument pas soigner les gens. Mais c'est intéressant dans la mesure où ça les aide justement eux à verbaliser des douleurs ou des choses qui leur font mal ou qu'ils ont besoin effectivement de pouvoir exprimer à un moment. Et souvent, on se fait cueillir à froid souvent, hein, ces émotions-là, on ne s'y attend pas, on ne se prépare pas. Quand on va chez le psy la semaine suivante, on sait qu'on va parler d'eux ou on va se préparer à parler d'eux. Mais là, bon, on va avoir une expo, puis bouf, on est cueilli à froid et les choses ont besoin de sortir. Donc c'est ça qui est intéressant, moi j'aime bien ça. Alors, pas toujours sur des sujets lourds, hein, ça peut être... j'aime bien aussi le côté grand guignol, hein, les poupons dans des bocaux, je trouve ça assez grand guignolesque, quoi. C'est vraiment une provocation... je dirais presque d'un grand adolescent attardé, quoi. Mais j'aime bien ça quand même, parce qu'il y a toujours à un moment une réflexion qui peut s'instaurer, qui peut se mettre en place. Donc c'est ça qui est sympathique. Bon, sinon après je fais des choses un peu plus sérieuses quand même. Des carnets de voyage, des carnets de route. Donc. Et là j'aime bien une autre manière de présenter le travail, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire des beaux livres d'art. Je cherche à montrer mes images, donc à avoir un livre pas cher, sur parfois un papier pas cher, que j'hésiterai pas à arracher ou à recoller ou à remettre des choses dessus. C'est vraiment un carnet de voyage. Et parfois je les colorie ou je remets des choses que j'ai, des tickets de musée ou des choses comme ça que j'ai conservées de mon voyage. Et je me fais vraiment mon petit carnet de voyage. Vous voyez, quand je vous dis que j'aime les cabinets de curiosité, quand je peux en trouver... ça et les cabinets d'anatomie, c'est vraiment c'est ma fascination. Alors du coup, j'ai quelques bouquins avec des cabinets de curiosité fabriqués. Donc évidemment, il y a les petits bocaux. Mais par exemple, ça c'est un ami qui est collectionneur et qui a une collection d'objets absolument hétéroclites. Il collectionne tout et n'importe quoi, des choses un peu bizarres qu'il a récupérées. Et là, il m'a écrit, en fait, sur les pages, le moment où il a découvert ou pourquoi. Et donc, à chaque fois, finalement, c'est amusant, c'est un parcours personnel à travers une collection. Et je trouve ça assez intéressant. Et là, pareil, on ne cherche pas la beauté de la photo. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre l'image et puis ce petit moment. Et puis bon, c'est un truc curieux, la collection. Je ne sais pas si vous collectionnez des choses, mais bon... Moi, j'ai toutes mes collections, même quand j'étais gamin, je les ai encore. Quand je les revisite, ça me fait rire parce que je me dis pourquoi je gardais toutes ces bricoles absolument horribles. Mais en même temps, j'arrive pas à m'en séparer, je les garde parce que je les trouve intéressantes. Puis ça me rappelle effectivement des moments, des moments de, assez sympathiques où à chercher, à fouiner, à assembler, à ranger. Je pense que ça fait partie de la structuration des personnalités. Et là, il y a vraiment des trucs qui ne méritent pas d'être dans des musées. C'est ça qui m'amuse aussi. C'est des objets, c'est des fonds de boîtes trouvés dans des puces, dans des brocantes. Il y a un objet qui fait tilt et qu'on ramasse et qu'on se dit, tiens, ce truc-là, ça me rappelle cette chose-là. Et j'aime beaucoup ça, moi. Donc, j'aime beaucoup les curiosités, les curiosas, comme j'appelle ça. Donc, voilà, un petit peu tout genre de travail. Et le dernier, celui sur lequel je suis un petit peu plus identifié, après avoir emballé des poupées et des poupons, j'ai emballé des gens. Ouais, par contre, ouais, ça c'est le dernier bouquin que j'ai publié, qui est un travail plus sur la mythologie, sur les figures mythologiques, plus féminines, puisque je n'ai pas trouvé de messieurs pour poser dans ce travail-là. Ce qui fait que les femmes ont remplacé les hommes. Atlas devient une femme. Enfin bon, c'est assez amusant. Donc là, l'idée, c'était de proposer une situation mythologique au modèle. Et à travers un jeu de bâches flottante, de le laisser faire sa chorégraphie. Et moi, d'attraper les lumières et les moments qui m'intéressaient. Donc là, il y a pas mal d'images. Il y a une quinzaine de modèles. Alors, il y a des portraits. Donc là, on est vraiment sur des madones, sur des choses assez construites. Là, on passe plus sur les Vénus. Puis après, alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des corps différents. Je ne cherche pas des corps bien foutus dans les canons des magazines. Les corps m'intéressent simplement parce que ce sont des humains, quoi. Le tour de taille ou le tour de poitrine est vraiment anecdotique. C'est dans ce qu'on a envie de raconter, en fait, que ça va prendre tout son sens. Alors là, par exemple, sur la bâche froissée, on se rend compte qu'on est dans la même approche de déstructuration que les autres images. Et j'ai fait une autre série intermédiaire, en fait, où j'utilisais des projections de peinture et d'eau et de poudre qui aussi déformaient les choses comme ça. J'adore ces visages morcelés. Et finalement, je trouve que la beauté est encore plus sublimée. Parce que peut-être toutes les imperfections sont gommées puisqu'elles n'apparaissent pas. Donc le cerveau, lui, il reconstruit avec ses propres canons de beauté et les choses se mettent en place. Donc là, par exemple, c'est un modèle qui a une taille un peu plus imposante, que moi j'ai trouvé très intéressante. Esthétiquement, je trouve que c'est vachement fort. Ça, c'est l'avant-dernier travail, ce qui précédait en fait la série des portraits. Et depuis, je travaille sur les portraits assez régulièrement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter au niveau des livres.
C'était Martial Rossignol du collectif Incarnat, au micro de Julie et Clémence, dans le cadre d'un atelier radio avec PFM, réalisé lors d'une résidence d'artistes à l'Office culturel d'Arras.